Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition du Monde aujourd'hui du vendredi 6 avril 2018. Il est 19h30, temps universel. Au sommaire, en République démocratique du Congo, la commission électorale nettoie le fichier électoral, exclut plus de 5 millions d'électeurs. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 reprendra le mois prochain. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma devant le juge dans un procès pour corruption, mais il parle de procès politique. Le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine, le président Trump veut ajouter 100 milliards de dollars de taxes sur les produits chinois. Et en partie magazine, retour sur les échecs des négociations entre l'Éthiopie et l'Égypte sur le partage des eaux du Nil.
Le barrage de la Grande Renaissance est construit pour une bonne partie et donc à terme, ce barrage va fonctionner avec ou sans consentement égyptien.
Et ne ratez pas également les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout de suite le journal. Bienvenue à tous en République démocratique du Congo. Plus de 5 millions de personnes, dont quelques 900 000 mineurs, ont été radiées du fichier électoral. La Commission électorale nationale indépendante a présenté ce vendredi à Kinshasa les statistiques après plus de 2 mois de nettoyage du fichier. Une étape importante en prévision des élections du 23 décembre prochain. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Sur les 46 542 289 enrôlés fin janvier dernier, la Commission électorale nationale indépendante ne dispose plus sur son fichier que de 40 287 387 électeurs. 5 381 763 doublons ont donc été radiés de ce fichier électoral. Parmi eux, 902 290 mineurs. Les provinces du Sankuru, de la Chuapa et de l'Omami détiennent le record de ces irrégularités. Pour ce qui est des statistiques par province, avec 4,4 millions d'inscrits, la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, pointe en tête des provinces avec le plus grand nombre d'électeurs. Suivent le Nord Kivu avec ses 3,8 millions d'électeurs, le Sud Kivu qui compte 2,5 millions d'électeurs, le Haut Katanga avec ses 2,4 millions d'électeurs et le Kwilu qui en comptabilise 2,3 millions. La centrale électorale a également dévoilé les statistiques de chaque territoire de la RDC. Étape déterminante pour la répartition des sièges dont la loi doit être débattue au Parlement pendant la session parlementaire en cours. Le calendrier électoral de la CENI continue à tenir la route, a par ailleurs rassuré Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, devant de nombreux invités, notamment les représentants des partis politiques. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, un prêtre enlevé dans l'est du pays depuis 4 jours a été libéré. Nous venons d'obtenir la libération de l'abbé Célestin Ngango après beaucoup de tractations avec les ravisseurs, a déclaré le vicaire général du diocèse de Goma. Il avoue avoir versé une rançon. Les ravisseurs exigeaient 500 000 dollars, mais le diocèse de Goma n'a pas précisé le montant qui a été versé. Cependant, 3 civils qui avaient été enlevés ont été exécutés par leurs ravisseurs, selon la société civile. Procès du putsch manqué du 15 septembre 2015 au Burkina Faso, la quasi-totalité des avocats de la défense ont suivi leurs collègues qui ont démissionné il y a quelques jours. Résultat, 12 accusés se sont ainsi retrouvés sans conseil, des démissions en cascade qui ont donc poussé le tribunal à modifier l'agenda. À Ouagadougou, le point avec notre correspondant Issa Napon.
À l'ouverture du procès qui devait aborder les questions de fond avec les premiers interrogatoires des 84 accusés, 12 d'entre eux n'étaient pas assistés. La majorité des avocats de la défense ont suivi leurs collègues de la semaine écoulée en se déportant eux aussi, c'est-à-dire qu'ils n'assurent plus la défense de leurs clients. Les griefs lus dans une lettre adressée au tribunal ce matin sont justifiés, estime maître Christophe Birba.
La première chose, nous avons récusé les 2 magistrats professionnels sur des bases que nous estimons suffisamment solides. La deuxième raison, c'est que les juges ont été nommés par des partis jusqu'au procès.
Le refus des deux mois demandés pour produire leurs témoins font partie de nombreux griefs que Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile, considère comme du pur dilatoire. Il n'est pas surpris par ces attitudes de la défense, laisse-t-il savoir.
Ça rentre dans la ligne droite de la stratégie que la défense a adoptée depuis le début de ce procès. La logique était de faire en sorte qu'il y ait une paralysie du procès. Dans tous les cas, nous sommes persuadés que ce procès aura lieu et on saura qui a fait quoi.
Rendez-vous est pris pour le 9 mai avec certainement l'entrée en scène et l'équipement d'avocats commis d'office. Kumure Waïsanapon Ouagadougou, VOA Afrique.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a assuré que son pays ne signerait pas d'accord avec Washington pour l'installation d'une base militaire américaine. Le président ghanéen a confirmé que les deux pays ont reconduit un accord de coopération, mais que le Ghana n'offrait pas de base militaire aux États-Unis. L'opposition avait organisé une manifestation à Accra la semaine dernière, accusant le président d'avoir autorisé l'installation d'une base militaire américaine dans le pays. Au Niger, l'université de Niamey est paralysée depuis 3 semaines par des grèves d'étudiants. La situation s'est empirée à l'université et nous observons encore une grève de 72 heures dans toutes les facultés, a affirmé Sita Djabiri, le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Hier, les forces de l'ordre ont dispersé à coups de grenades lacrymogènes un sitting d'étudiants sur le campus visant à perturber des examens à l'école normale supérieure. En Afrique du Sud, le procès de l'ancien président Jacob Zuma, accusé de corruption dans une affaire de vente d'armes, a démarré aujourd'hui. Il a aussitôt été renvoyé au 8 juin. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
À la demande de l'accusation et de la défense, Temba Sichi, magistrat en charge du dossier, a renvoyé le procès au 8 juin. Il a ajouté que c'est une date provisoire. « Je suis innocent jusqu'à ce que je sois jugé coupable, mais certaines personnes veulent me traiter comme si j'étais coupable », a lancé Jacob Zuma à la foule, qu'il a acclamé par des chants et le slogan, je cite, « Ne touchez pas à Zuma ». À l'époque ministre provincial puis vice-président, M. Zuma est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe français Thales lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros en 1999. L'entreprise d'électronique et de défense est aussi poursuivie. Jacob Zuma a toujours rejeté ces accusations qu'il dénonce comme un complot politique. Mis en cause dès 2003, par 2 fois le parquet a engagé des poursuites, puis les a abandonnées. La dernière annulation, quelques jours avant son élection à la présidence en 2009, semblait avoir enterré l'affaire. Mais en mars dernier, Jacob Zuma a été renvoyé devant le tribunal pour fraude, corruption et blanchiment.
Au Zimbabwe, la police va bientôt interroger l'ex-première dame Grace Mugabe dans une affaire d'exportation illégale d'ivoire, un commerce illicite qui lui aurait rapporté des millions de dollars selon la presse gouvernementale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Tension commerciale entre Washington et Pékin. Le président américain Donald Trump a doublé les enchères et menace de viser les importations chinoises à hauteur de 100 milliards de dollars. La Chine a assuré ne pas craindre de payer le prix d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Eric Manerakiza.
Les menaces sont devenues presque quotidiennes de part et d'autre du Pacifique. Le président Donald Trump veut se servir de l'article 301 sur la propriété intellectuelle pour porter à 100 milliards de dollars les tarifs douaniers. Il a ordonné à son département du commerce d'examiner la possibilité et d'identifier les produits chinois à taxer. Pékin se dit prêt à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, et a répété que la Chine n'a pas peur d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Même si Washington a clairement décidé de faire monter la pression d'un cran en répondant du tic-tac à Pékin, il ne s'agit pour l'instant que de menaces. Le représentant américain au commerce a laissé entendre que les mesures de rétorsion n'entreraient en vigueur qu'à l'issue d'un processus de consultation publique. La Chine a déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre les États-Unis et tente aussi de mobiliser l'Union européenne et la Russie pour combattre ensemble le protectionnisme américain. Le président Trump a vivement dénoncé le fonctionnement de l'OMC, jugeant qu'il était injuste envers les États-Unis.
3 Palestiniens au moins ont été tués, 250 blessés par des soldats israéliens lors de protestations près de la barrière de sécurité entre Gaza et Israël. Nathalie Barche.
Environ 10 000 Palestiniens ont manifesté le long de la frontière. Certains ont incendié des pneus et tenté de franchir la barrière de sécurité sous une épaisse fumée. Des jeunes ont brûlé des pneus pour empêcher les soldats israéliens de les voir distinctement. Mais ces derniers avaient installé d'énormes ventilateurs pour dissiper la fumée et ont utilisé des canons à eau. Des engins explosifs et des cocktails Molotov ont été lancés, selon l'armée israélienne, qui souligne avoir riposté avec les moyens anti-émeute et pare-balles, conformément aux règles d'engagement. Le 30 mars dernier, au début d'une série de manifestations pour réclamer la fin du blocus de Gaza et le retour des réfugiés, les violences ont coûté la vie à 19 Palestiniens et 1400 ont été blessés.
Nouvelles sanctions américaines contre la Russie, 38 personnes et entités russes parmi lesquelles des proches du président sont concernées par les sanctions américaines annoncées ce vendredi. Ils sont accusés entre autres d'avoir participé aux attaques de la Russie contre les démocraties occidentales. Parmi ces personnes visées donc figurent 7 hommes d'affaires proches de Vladimir Poutine et 17 responsables gouvernementaux. Au moins 4 civils ont été tués, 25 blessés ce vendredi dans des raids du régime syrien contre la dernière enclave rebelle près de Damas. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on retrouve Eric Manirakiza pour la Minute Éco.
L'accès préférentiel au marché américain a permis l'accroissement des échanges commerciaux entre le continent africain et les États-Unis. En 2001, les exportations à Goa vers les États-Unis représentaient plus de 8 milliards de dollars et en 2008, elles ont atteint un pic historique à plus de 66 milliards de dollars. La Goa a été prorogée pour 10 ans supplémentaires jusqu'au 30 septembre 2025. En 2016, la Goa bénéficiait à 38 pays sur les 49 d'Afrique subsaharienne, la Gambie, le Swaziland, le Soudan du Sud, l'Érythrée, la RDC, la Centrafrique, le Zimbabwe, la Somalie, la Guinée équatoriale et le Burundi sont exclus de ces avantages. Le secteur agricole peut jouer un rôle déterminant dans le renforcement de la croissance en Afrique du Nord. D'après la BAD, il faut une plus grande sécurité alimentaire et la diminution de la pauvreté rurale. Dans un premier temps, la BAD suggère d'augmenter les réserves alimentaires et d'utiliser les marchés financiers pour réduire les risques, puis soutenir les petits exploitants et les familles d'agriculteurs pour accroître la production alimentaire et accéder plus facilement au marché des intrants et des extrants.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Match de barrage aller de la Coupe CAF.
Eh bien, le CF Mounana a été tenu en échec ce vendredi à domicile face à El Masri d'Égypte. À suivre toujours ce vendredi le Rayon Sport du Rwanda qui accueille Costa do Sol du Mozambique et encore le Bidwest de Wits qui joue en Afrique du Sud à domicile contre Enyimba du Nigeria. Demain, d'autres rencontres à suivre. Le Raja Casablanca en déplacement en Zambie chez le Zanaco. L'AS Vita Club qui affronte le voisin congolais du CS La Mancha. Saint-Georges d'Éthiopie contre le Kara de Brazzaville. L'Udesongo du Mozambique contre Hilal Obiet du Soudan. Et puis l'USM Alger en déplacement au Nigeria chez le Plateau United. Les Young Africans de Tanzanie contre le Waita Dicha d'Éthiopie. Et puis le RS Barkhane face à Génération Foot au Sénégal. Enfin, le WAC de Williamsville, le club ivoirien contre Niéfa de Guinée équatoriale. Dimanche, enfin, les dernières rencontres. Al Hilal du Soudan contre Akwa United du Nigeria. Gor Mahia du Kenya face à Supersport United, le club sud-africain. Le Fossa Junior de Madagascar en déplacement chez Adwana Star du Ghana. La SEC Mimosa accueille à Abidjan le CR Belouizdad. Enfin, MFM du Nigeria contre le Djoliba de Bamako.
Démission à la tête de la Confédération Océanienne de Football.
David Chung, le président, a annoncé ce vendredi à la surprise générale qu'il démissionnait pour des raisons personnelles à 10 mois de la fin de son mandat. L'homme d'affaires de 55 ans, né en Malaisie mais président de la Fédération de Papouasie-Nouvelle-Guinée, son pays de résidence, avait remplacé au pied levé en 2010 le Tahitien Reynald Temari, impliqué dans un scandale d'achat de vote. Il avait ensuite été confirmé en 2011, puis réélu en 2015 pour un mandat de 4 ans à la présidence de la plus pauvre des confédérations de la FIFA, qui compte 11 pays membres.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
À quelques jours du coup d'envoi des playoffs, Golden State surclassé par Indiana, une défaite inquiétante, 106-126. L'optimisme est de mise à Cleveland en revanche grâce à l'inévitable LeBron James qui a foudroyé Washington, victoire 119 à 115. De son côté, Houston, leader de la conférence Ouest et favori pour le titre, a tremblé face à Portland avant de s'imposer 96 à 94. Enfin, Denver n'abdique toujours pas. Les Nuggets ont battu Minnesota 100 à 87.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe tout de suite au dossier du jour. Au Congo-Brazzaville, une vingtaine de réfugiés centrafricains sont rentrés chez eux mercredi grâce à l'appui du HCR à Brazzaville. Ce retour fait suite à d'autres départs qui ont commencé dans le nord du pays, notamment dans la Likourala. Reportage de notre correspondant sur place, Nguela Ngosu.
Dernières accolades et quelques selfies dans la salle d'enregistrement de l'aéroport international Mayamaya. Une vingtaine de réfugiés centrafricains manifestent leur joie en rentrant au bercail.
On dit toujours être bien, c'est ce soir, donc c'est parfois ça que nous sommes bien, que nous sommes vraiment dans une grande joie, parce qu'aujourd'hui je vais retrouver enfin mes familles, c'est ça.
La même joie est partagée par Mireille Sondé, une autre réfugiée qui dit retrouver enfin un pays natal en paix.
Ici en Congo, c'est bien. Même le problème qu'on n'a pas habitué ici.
Nous n'avons pas de famille.
Famille ici,
non, nous
on voulait même aller chez nous pour vivre dans notre famille parce que notre pays a besoin de nous. C'est ça, on ne voulait pas.
Ils ont au total été 26 réfugiés à prendre le vol Brazzaville-Bangui mercredi matin. Certains sont même venus de Pointe-Noire. Selon le recensement du 31 janvier 2018, le Congo a accueilli 32 508 réfugiés centrafricains. Mais seulement 800 demandent à rentrer chez eux. Les premiers départs d'une centaine de personnes ont déjà eu lieu par le nord du pays, à Betou dans la Likouala. Le responsable de communication du bureau du HCR à Brazzaville, Mohamed Assori, indique que le travail de l'agence onusienne consiste à s'assurer que tous les répatriements volontaires se fassent dans la sécurité.
Nous sommes en train de faciliter ces retours-là. L'air n'est pas à la promotion des rapatriements pour tout le monde, mais tous ceux qui désirent rentrer en âme et conscience, sans aucune pression, bien sûr, ni celle du HCR, ni des autorités impliquées, nous, on s'assure juste à ce que ça se passe dans les conditions les plus humaines, les plus dignes possibles.
Une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé a été remise aux réfugiés pour recommencer une nouvelle vie à Bangui. Prochain départ à partir de Mayamaya, mercredi prochain. Nguela Ngosu, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La justice tchadienne a ordonné la libération du cybermilitant Tajadine Mamat Babouri. Il a été détenu pendant 18 mois pour avoir diffusé sur Facebook plusieurs vidéos dénonçant la mauvaise gestion des fonds publics. Une détention arbitraire, illégale et basée sur des accusations forgées de toutes pièces selon Amnesty International. Morgane Guerrier a joint Balkissa Idesido, chercheuse à Amnesty International.
Il a été détenu en fait sans accès à sa famille ni à son avocat. Et pendant sa détention, il a été frappé, il a été torturé avec de l'électricité. Et il nous a communiqué que pendant 3 jours, on ne lui a donné ni de l'eau, ni de quoi manger. Les charges qui ont été portées contre lui sont énormément exagérées parce qu'il n'a fait que s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il n'a fait qu'exprimer une opinion, ce à quoi il est autorisé parce que c'est son droit. Il a le droit à la liberté d'expression. Rien que pour ces vidéos, il a été inculpé pour atteinte à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité territoriale et à la sécurité nationale, de même que complicité d'intelligence avec un mouvement insurrectionnel. Aujourd'hui, après plus de 18 mois de détention, qu'on peut dire illégale, la justice a requalifié les charges, donc on l'a inculpé maintenant pour diffamation. Et ce n'est qu'hier qu'il a été libéré. Or, d'après la loi tchadienne, on ne peut pas punir la diffamation par la détention.
Alors, il comparaîtra une nouvelle fois devant le tribunal le 19 avril, mais vous estimez qu'il devrait rester libre, n'est-ce pas?
Les charges de diffamation sont vraiment sans aucun fondement, d'autant plus qu'au Tchad, on ne reconnaît pas qu'il est journaliste, parce que les charges de diffamation ne peuvent être portées qu'à un journaliste. D'après la loi tchadienne, on ne peut pas emprisonner pour diffamation. On peut demander à la personne de payer des amendes. Donc nous, nous demandons aujourd'hui que toutes les charges retenues soient totalement abandonnées et que les allégations de torture soient investiguées et que les coupables soient présentés devant un tribunal civil et indépendant.
Sur ces allégations de torture, est-ce que les autorités concernées reconnaissent les faits?
Il se trouve aujourd'hui que, durant toute la procédure, que les allégations de torture n'aient pas été mentionnées. Pourtant, il y a des certificats médicaux qui ont été délivrés par des médecins. Les médecins qu'ils ont eu à lui administrer des soins pendant sa détention à la prison de Korotoro, également à Moussoro, qui démontrent qu'il a été torturé pendant sa détention.
D'après vous, hein, le cas de Tajadine est représentatif du sort réservé aux défenseurs des droits de l'homme, aux militants de la société civile et aux journalistes au Tchad?
Les défenseurs des droits humains, les personnes qui s'expriment de manière libre et pacifique par rapport à la crise économique que le pays vit actuellement ou qu'ils ont eu à revendiquer les résultats des présidentielles ont été fortement menacés, intimidés, ils ont subi des pressions, ils ont été arrêtés, détenus.
C'était Balkissa Idé Sido d'Amnesty International.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les eaux du Nil sèment la discorde entre Addis Abeba et le Caire. Le barrage dit de la grande renaissance éthiopienne inquiète l'Égypte qui craint une réduction du débit du Nil bleu qui traverse le Soudan et alimente l'Égypte. Depuis plusieurs mois, les discussions sont au point mort et la réunion des experts qui vient de se terminer à Khartoum n'a pas permis de sortir de l'impasse. Est-ce une surprise? Donc, Idriss Fall a joint à Tokyo Roland Marshall, chargé de recherche au CNRS.
Non, depuis le début, on a des rapports. Les experts sont commissionnés, les conclusions sont privilégiant à la fin un camp sur un autre. Les experts sont envoyés à leurs études et il faut refaire un autre rapport. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à Khartoum. On est dans une situation qui est à la fois une impasse en termes d'accord formel, avec quand même une différence, c'est que le barrage de la Grande Renaissance est construit pour une bonne partie. Et donc, à terme, ce barrage va fonctionner avec ou sans un sentiment égyptien.
L'Égypte avait aussi, dans un accord antérieur, bénéficié le plus des eaux du Nil.
Oui, mais ils ont le point de vue des Éthiopiens n'est pas absurde. Ils soulignent d'abord que cet accord a été signé dans un moment historique particulier où l'Éthiopie ne pouvait guère faire valoir ses droits. Depuis, il y a eu une croissance démographique importante pour l'Éthiopie. L'Éthiopie a besoin d'électricité, l'Éthiopie a besoin de développement. Évidemment, l'énergie électrique peut y contribuer. Le problème des Égyptiens, c'est que leur agriculture et leur monde urbain est complètement dépendant des eaux du Nil et qu'il n'y a aucune alternative qui a été trouvée. Disons, une des choses qui pourrait être négocié, c'est en combien de temps le bassin de ce nouveau barrage peut être rempli. On parle d'un an, deux ans, trois ans. Bon, évidemment, tout ça aura un impact. De fait, il y a beaucoup de questions qui sont posées, qui est au-delà du partage des eaux du Nil, sur l'impact écologique dans la région, à la fois sur le Soudan, l'Égypte, et puis peut-être même à l'intérieur de l'Éthiopie.
Et le Soudan dans tout ça?
Alors, le Soudan est dans une situation difficile, parce que d'un côté, il faudrait la solidarité arabe, mais de l'autre, le Soudan se rend compte que bon, le régime de Sisi ne lui est pas le plus favorable. Hein. Sisi est hostile de façon assez fanatique à l'islam politique. Et puis il y a aussi des intérêts économiques. Si l'Éthiopie lance la production hydroélectrique avec le barrage, le Soudan en sera l'un des principaux acheteurs. Et d'autre part, le Soudan a aussi l'idée de construire des barrages qui sont évidemment de taille totalement minime.
Est-ce qu'on peut envisager une guerre pour le partage des eaux du Nil?
On murmure ici Irak, l'Érythrée aimerait bien. L'Érythrée, il y a eu au mois de janvier une mini-crise où à Khartoum, il y avait des rumeurs disant que les Égyptiens avaient envoyé des troupes en Érythrée avec les Émiratis, donc qui ont une base militaire. Les Égyptiens n'étaient pas trop mécontents de tout ça. Alors, Khartoum a dû demander des négociations et puis on s'est rendu compte que tout d'un coup, il n'y avait pas de contingent égyptien, il n'y avait pas de contingent émirati et que tout ça, c'était un peu des rumeurs qui étaient mises en avant simplement pour provoquer une petite crise diplomatique.
C'était Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS.
Rich man's wealth is in the city, yeah. Destruction of the poor is his poverty, Lord. Destruction of your soul is vanity, yeah, yeah. Do you hear? I wanna rule my day.
Voilà, on se quitte sur ce joli titre Destiny, signé Buju Banton, au choix de Cédric Franklin et Lionel Gaïmard, qui étaient de l'autre côté de la baie vitrée. Moi, c'est Abdourahmane Dia. Je vous souhaite un excellent week-end sur les ondes de VOA Afrique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le Premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude, appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA, a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni des directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont attendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du Dr Raymond Goudou Goshi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le docteur G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Les représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. Le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois soutenus par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants tels que l'ICAP de l'Université de Columbia aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique datant de plus de 30 ans. Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de SIDA-VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet CIFIA.
C'était un éditorial reflétant le point de vue.
Et tout de suite.